OK, on en est à notre 56e leçon. Aujourd'hui, nous allons voir l'honneur et le bonheur de l'homme dans son état d'innocence. Alors, dans une leçon précédente, on avait étudié l'honneur et le bonheur de l'homme sous son aspect interne, qu'on pourrait dire. Ce qu'on veut dire par aspect interne, c'est qu'il avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet aspect de ressemblance avec Dieu se constatait dans le fait qu'il soit sage et qu'il avait déjà, à ce moment-là, une bonne connaissance de Dieu. Et il était aussi saint et sa rectitude morale n'était pas encore affectée. Il avait aussi un usage approprié de ses pouvoirs rationnels, ce qui n'a pas été le cas après la chute. Il avait aussi, à ce moment-là, une excellente communion avec Dieu et il jouissait de fréquentes apparitions de Dieu lui-même. On va maintenant examiner cet honneur et ce bonheur de l'homme sous son aspect qu'on pourrait dire externe. Premièrement, le fait d'avoir été placé dans le jardin d'Éden pour son habitation. Dans Genèse 2:8, on lit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. » En hébreu, le mot « Éden » signifie « délice » au pluriel. Alors, c'est sûr que c'est un endroit extrêmement agréable à vivre dedans. Psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Genèse, chapitre 13, verset 10, « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. » Si on dit souvent comme le jardin, c'est, on dirait, l'activité des rois. Souvent, quand un roi est dans le sommet de sa puissance, il a autour de sa résidence souvent des jardins énormes, des jardins extrêmement beaux. Et ici, on compare Éden à un jardin de l'Éternel. Alors, si quelqu'un a déjà été, je ne sais pas, mais en Colombie-Britannique, voir Stanley Park ou des choses comme ça, moi, la première fois que j'ai vu ça, je n'avais jamais vu ça au Québec. C'est extraordinaire de voir comme les anglophones de la Colombie-Britannique ont des choses, ils font des arrangements floraux. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors, si on est émerveillés par les choses que les hommes font, imaginez le jardin d'Éden. Devait être encore beaucoup plus extraordinaire que ces choses-là. Alors, on n'en trouve plus les traces aujourd'hui du Jardin d'Éden, fort probablement parce que Dieu l'a maudit et aussi parce que le déluge l'a détruit. Dans Genèse 3, versets 17 et 18, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Alors souvent, le jardin d'Éden et comparé à l'Église de Christ, par exemple, dans le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 12 et 13. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » On sait que dans Cantique des Cantiques, c'est souvent une allégorie qui, d'amour entre le Christ et l'Église, du moins plusieurs interprètes le voient comme ça. Alors, quand il parle « tu es un jardin fermé », on compare le jardin d'Éden avec l'Église de Christ. Il est comparé aussi au paradis. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Oui. » On parle de l'arbre de vie, mais en parle aussi dans la Genèse. Et ici, il dit l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, le jardin d'Éden est comparé au paradis de Dieu. Alors, il a été placé dans le jardin d'Éden, d'abord pour son habitation. Deuxièmement, pour le support de ce qu'on pourrait appeler sa vie animale. Alors, il y avait un corps et à ce moment-là, ça impliquait qu'il se devait de manger. Alors, le jardin était extrêmement beau et riche. Il pouvait satisfaire pleinement tous les besoins de l'homme. Il contenait des arbres de toute espèce, agréables à voir, avec des fruits bons à manger. Comme nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 9, et également aussi verset 16 et 17. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, le jardin contenait l'arbre de vie et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, dans les Écritures, l'arbre de vie est comparé à la personne de Christ. Par exemple, dans Proverbes chapitre 3, versets 13 à 19, où on parle dans le contexte de la personne de Christ et où on l'appelle la sagesse avec un S majuscule. Proverbes 3, 13 à 19, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et vous, dans le contexte, on parle de Christ, puis on parle de Christ en disant « elle est un arbre de vie », en parlant de la sagesse. Donc, l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ dans le contexte. Apocalypse 22, 2. « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque fois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Les Écritures ne mentionnent pas précisément de quelle nature était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'idée que ce soit un pommier n'est que spéculation, et c'est quelque chose qui a été véhiculé par l'Église catholique. Souvent, les gens ont encore cette idée-là dans la tête, mais il n'y a pas un mot dans les Écritures qui dit que c'était un pommier. Et il l'avait placé également, donc là, pour son habitation. Il l'avait placé là aussi pour garder sa vie animale, parce qu'il avait besoin de choses pour maintenir sa vie. Et il l'avait mis là aussi pour la garde et la culture du jardin. Déjà, il y avait une activité royale. Genèse 2, verset 15, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et il l'avait placé aussi à un endroit qui était arrosé par un fleuve à quatre bras. Genèse 2, verset 10 à 14. « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. » C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, il l'avait placé là, mais il lui avait donné aussi un travail à faire dans le jardin d'Éden. Il lui avait donné le travail et l'opportunité de nommer les créatures. Donc, c'est une preuve que l'homme avait déjà beaucoup de sagesse et avait une certaine connaissance avant la chute. Donc, le fait d'observer un animal et juste par son comportement être capable de lui donner un nom qui correspond à son comportement, ça prend de la sagesse, ça prend de l'intelligence. Genèse 2, versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et il avait placé là pour lui donner éventuellement une aide, comme on lit dans Genèse 2, versets 18 et versets 21 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc Dieu donna à l'homme une aide et une partenaire. Il combla ainsi ses besoins sociaux, ses besoins psychologiques, ses besoins physiques, donc le plaisir et la propagation de la vie. Et par le fait même, il instituait une des plus vieilles institutions de la terre, l'institution du mariage. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Deux au moins. Tous les besoins de l'homme avaient été comblés avant la chute. Ses besoins spirituels, par ses rencontres avec Dieu, par sa communion avec Dieu. Ses besoins sociaux, déjà, il avait donné une compagne. Ses besoins physiques, il avait absolument tout ce qu'il avait pour se nourrir et bien d'autres choses. Ses besoins intellectuels, donc le fait de devoir nommer l'ensemble de tout ce qui existait comme animaux, ça devait être un gros contrat, mais je suppose qu'il devait y prendre un grand plaisir. Ses besoins d'activité, ses besoins de beauté, ses besoins de travail. Je pense que ça complétait définitivement, ça faisait le tour de tous ses besoins. Deuxième application, c'est que malgré la chute, Dieu continue à pourvoir à nos besoins. La malédiction a été miséricordieuse, parce que malgré le fait qu'il avait chuté, Dieu a fait des choses, il a puni l'homme et la femme, et il a fait en sorte qu'il y avait des répercussions à ça. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave parce qu'il a quand même, dans la malédiction, il a quand même fait preuve de miséricorde. Ce que ceux qui iront en enfer ne profiteront d'aucune sorte de miséricorde. Donc, malgré tout, il lui avait laissé le travail, il lui avait laissé bien des choses sur la terre. Malgré son péché, il aurait pu le juger beaucoup plus sévèrement. Alors, remercions-le, louons-le et adorons-le.
Amen.
Amen.